Nous retrouvons Huguette Nadal pour la chronique généalogie. Bonjour Huguette.
Bonjour.
La semaine dernière, nous avons commencé à parler de l'acte de mariage. Nous poursuivons dans cette chronique, mais en parlant de l'acte de mariage depuis la Révolution française. Alors, dites-nous, quelles sont les nouveautés ?
1792, la Révolution instaure le mariage civil obligatoire, célébré devant l'officier d'état civil, un maire ou un adjoint. Beaucoup de Français, surtout dans les campagnes, tardaient à se conformer à cette nouvelle règle. On continuait à préférer la cérémonie religieuse, parfois sans officialiser civilement. Alors, pour régulariser la situation, les municipalités organisaient des cérémonies collectives, appelées mariages groupés. Alors, cela signifie que plusieurs couples étaient mariés le même jour, dans la même salle, par le même officier d'état civil. Les cérémonies pouvaient rassembler des dizaines de couples. On y retrouvait souvent des jeunes qui vivaient déjà en union religieuse ou des couples qui devaient légitimer les enfants, bien sûr. Alors, les raisons principales, c'était régulariser les unions religieuses, bien sûr, mais non reconnues, lutter contre les mariages clandestins et imposer l'autorité de l'État républicain, une pratique administrative plus simple pour les mairies, surtout dans les villages. Et puis le caractère festif et républicain, la cérémonie collective, donnait un air de fête civile, parfois accompagné de musique et de banquets pour tout le village, ou pour toute la ville, le quartier. Voilà. Alors dans certaines communes rurales, on voyait le maire marier en une seule fois 20, 30, 40 couples. On appelait ainsi ces unions des mariages de régularisation, car beaucoup de couples vivaient déjà ensemble ou avaient des enfants. Résumé, les mariages groupés sont une pratique de la Révolution pour appliquer la loi de 1792. C'était surtout une célébration républicaine collective. Bien sûr, dans ces mariages, il existait les contrats de mariage. Ça, c'est une part importante. Que ce soit dans la religion catholique ou que ce soit après, beaucoup d'actes de la vie courante passé par les notaires. Donc on a des archives notariales qui sont très importantes. Il y avait dans chaque village parfois 2-3 notaires parce que tout était consigné. Le moindre élément de la vie quotidienne des gens était réglé par des actes notariés. Donc ce contrat de mariage, il portait pas sur l'amour ou la vie conjugale, mais sur les biens, l'argent et la transmission d'un patrimoine. On disait même que c'était souvent plus important que la cérémonie religieuse. Et parce qu'il garantissait la sécurité économique des familles.
Bien sûr.
Bon, presque toutes les familles aisées en faisaient établir un. Mais il y a aussi, dans les familles rurales, on faisait aussi des contrats de mariage. Et il est très amusant de les lire parce que vous voyez, ces paysans, la fille apporte un drap légèrement usé, où le comble de la richesse était une armoire avec une clé, par exemple.
Ah oui.
Ou un matelas fait avec la laine des moutons.
Oui, oui, oui.
Et surtout les outils de travail.
Mm-hmm.
Apporter les outils de travail pour les hommes, c'était important.
Très bien.
Et puis surtout, ils obligeaient les fils aînés qui recevaient la plupart de l'héritage d'assurer la dot, enfin entre guillemets, des filles qui restaient à charge et des garçons aussi. Bon. Donc, les contrats de mariage, c'est quelque chose d'important. Alors, bien sûr, la dot, c'est des sommes d'argent, des terres, des biens immobiliers, des linges, des bijoux, des meubles que la mariée a apportés, bien souvent. Et puis, c'était pour contribuer aux charges du ménage et d'assurer la subsistance de la femme. Les biens du marié, bien souvent, c'était plutôt des champs, des terres, tout ce qui était immobilier, des maisons, tout ça. Donc, comme il y avait la communauté des biens, c'est-à-dire les époux géraient ensemble les biens acquis pendant le mariage, à la séparation des biens, chacun gardait la gestion de ses propres biens. Mais en pratique, l'homme était presque toujours maître de l'administration des biens, bien sûr. Et pour protéger la femme en cas de veuvage, par exemple, un douaire restait versé à la veuve. Et puis, il fallait aussi prévoir, comme je vous disais, la transmission des biens aux enfants. Alors, un instrument social, dans l'aristocratie, la bourgeoisie, le contrat servait aussi à sceller des alliances et à préserver les fortunes. Chez les paysans, il servait à garantir une ferme, une vigne, une dot de modeste pour l'installation du couple. Le mariage était donc un acte d'économie sociale, beaucoup plus qu'une affaire de sentiment. Voilà.
Parfait, merci beaucoup Huguette, et à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique généalogique.
Oui.
Merci. Merci.
Au revoir.
Au revoir.
On est bien sur Liberté FM.